Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Michel Pouzol, ancien député de l'Essonne, membre du mouvement Génération.S. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Pouzol, vous avez annoncé cette semaine votre retrait du Parti Socialiste auquel vous aviez adhéré en 2007. Votre départ n'est pas une surprise. Votre désaccord avec le PS d'ailleurs ne date pas d'hier. Lorsque vous étiez à l'Assemblée, vous aviez voté la censure contre le gouvernement.
On avait essayé de voter la censure, mais on n'avait pas réuni suffisamment de signatures.
Benoît Hamon dit que vous êtes un formidable avocat des invisibles, des plus pauvres et un inlassable militant contre l'exclusion. Pourquoi avoir rejoint le mouvement Génération.S, cofondé par l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle ?
Ça vient d'une démarche qui est finalement relativement logique, puisque pendant 5 ans à l'Assemblée, je fais partie de ce qu'on a appelé un peu abusivement les frondeurs, mais où nous remettions en cause un peu certains choix de la politique gouvernementale du moment, avec le résultat qu'on sait. J'ai été porte-parole de Benoît Hamon pendant la campagne, un des porte-parole de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Donc quand il a quitté le Parti Socialiste, naturellement, une proximité de thématique qui est restée. Je me suis engagé à ses côtés, mais pensant que la double appartenance pouvait encore avoir un sens, c'est-à-dire qu'on pouvait mener une aventure nouvelle, plus différente que de ce qu'on connaît dans un parti, et puis voir ce que devenait ce Parti Socialiste, et je n'y voyais pas tout à fait une impossibilité. Et puis, les semaines, les mois passant, je me suis de plus en plus engagé auprès de Benoît Hamon et des transitions que nous essayons de porter. Et l'écart s'agrandissait avec le Parti Socialiste, tout simplement.
Vous ne pouviez pas vous imaginer en train de voter pour le futur premier secrétaire tout en étant aux côtés de Benoît Hamon.
Je crois que pour moi, ça aurait été à un moment donné un manque de respect aussi de mes camarades socialistes que je respecte beaucoup et qui m'ont accueilli il y a 10 ans, avec qui j'ai fait beaucoup de combats et j'espère qu'on en fera d'autres. La clarification, moi, à ce moment-là, en tout cas, la clarification m'a semblé absolument nécessaire pour moi, mais aussi pour mes amis, à la fois de Génération et à la fois du Parti Socialiste.
On vous avait reçu l'an dernier sur Radio Orient, dans Boulevard des Auditeurs. Vous avez un parcours intéressant, puisque finalement, 10 ans au Parti Socialiste, c'est pas un grand parcours. Vous avez des camarades socialistes qui sont engagés depuis 30 ans. Benoît Hamon est un vieux militant du Parti Socialiste qui a claqué la porte après les législatives.
C'est vrai que c'est un parcours finalement relativement court, rapide, et puis atypique, puisque moi je suis rentré au Parti Socialiste donc il y a 10 ans, 6 mois après j'étais élu conseiller général de l'Essonne, 5 ans après j'étais élu député, enfin c'est quelque chose qui n'arrive pas beaucoup au Parti Socialiste, ni d'ailleurs dans aucun parti.
Et après avoir connu une vie professionnelle assez intense.
Voilà, avec un parcours avant qui était totalement atypique, puisque moi j'ai commencé ma carrière professionnelle. Moi, j'ai travaillé chez Michelin, à Clermont-Ferrand, à la chaîne, j'étais ouvrier.
Michel Pizot.
Alors, quelques mois, faut pas non plus, je l'ai pas fait pendant 20 ans. Puis après, j'étais animateur radio, j'ai fait du cinéma, j'ai été journaliste, j'ai fait beaucoup de choses différentes, j'étais professeur en cours Florent, et puis des projets qui ont capoté à l'aube des années 2000, et je me suis retrouvé là, par contre, au RMI, enfin, au niveau zéro, quelques années, donc, avant de rentrer au Parti Socialiste, effectivement.
Vous connaissez donc la vraie vie, vous connaissez la vraie vie, c'est un peu ce qu'on reproche à certains hommes politiques, notamment à certains responsables du Parti Socialiste, c'est de ne pas avoir connu le sort des autres Français.
Je connais une partie de la vraie vie, parce que le reste, je connais en tout cas cette vie-là, la vie de la grande précarité, de la difficulté. On s'est retrouvé avec mon épouse et ses deux enfants, mon épouse qui était enceinte, à aller se réfugier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans un petit cabanon en bordure de forêt à Brétigny-sur-Orge, 20 mètres carrés, pas aucun confort, 1,90 m de plafond, enfin voilà, quelque chose de très très dur, où on est resté un an et demi, où ma fille est née dans ces conditions-là, et en repartant à zéro, c'est-à-dire RMI, mes petits boulots, des centaines de petits boulots dans la grande distribution, parfois pour une journée, parfois pour 2 heures, parfois pour 2 jours, donc l'extrême précarité de ce que vivent, malheureusement, aujourd'hui, à peu près 9 millions de personnes en France.
Michel Pouzol, vous avez expliqué cette semaine, en quittant le PS, vouloir réinventer un monde écologique, solidaire, innovant et bienveillant. Le PS n'incarnait plus ses valeurs ?
Je crois que dans le quinquennat, le PS n'a pas réussi à résoudre sa contradiction entre un parti qui est parfois innovant dans l'opposition et qui n'a pas su l'être en étant au gouvernement. Et qui s'est rangé derrière des renoncements du seul chemin possible, de l'économie à tout craint, etc. Et je pense qu'il n'a pas été à la hauteur, en tout cas, des mutations de la société, que ce soit la nécessité d'une transition écologique, on le voit bien, qui est fondamentale et urgente, parce que demain, il sera trop tard, donc il faut le faire maintenant. La mutation du monde du travail, on voit bien que la précarité s'accroît, je vous disais, 9 millions de pauvres en France, qui vivent sous le seuil de pauvreté, hein. C'est ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vivent en France sous le seuil de pauvreté que de gens qui vivent en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la deuxième région de France. C'est pour vous donner une idée de l'importance du phénomène. Un monde du travail qui est complètement déstructuré par rapport à ce qu'on a pu connaître, moi, dans ma génération, où on rentrait encore peu ou prou dans une entreprise pour en sortir 40 ans plus tard. Des jeunes qui sont de plus en plus touchés aussi par la précarité, à l'autre bout de la chaîne, les retraités, voient cette mutation du monde du travail, l'invasion du numérique, de la robotique, bientôt de l'intelligence artificielle, on voit bien que tout ça est en train de remettre en cause nos modèles tels qu'ils sont. Donc on a besoin de réagir à ça, et je pense qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste n'était pas en mesure d'inventer une nouvelle voie. Alors, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, mais quand on a moins d'enjeux, quand vous partez dans une nouvelle aventure comme génération, qu'on a simplement l'enjeu de l'enthousiasme, de la foi de demain. Ce qu'on a porté pendant la campagne présidentielle. Ce qu'on a porté pendant la campagne présidentielle. Et qui a eu un écho dans la population, même si ça s'est pas traduit en vote. On se dit que c'est là où je pense qu'on peut prendre peut-être plus de risques et être plus exigeant avec demain.
Alors, vous exprimez un certain espoir en des lendemains meilleurs. Mais finalement, il y a tout de même beaucoup de responsables politiques qui ont quitté la vie politique pour retrouver une vie professionnelle après les législatives. Pour quelles raisons avez-vous décidé de poursuivre le combat politique après votre échec, vous-même, aux législatives, et l'échec de Benoît Hamon à la présidentielle et aux législatives ?
Ben, je vais vous dire un truc qui va faire un peu fan club, mais moi, quand je suis rentré au Parti Socialiste à Brétigny-sur-Orge, un soir de réunion de section... j'avais décidé que, avec mon épouse, de raconter ce que voulait dire la vie de quelqu'un de très précaire du RMI au quotidien à ses camarades qui se battaient pour changer le monde. Et quand je l'avais fait, il y avait un type qui était dans cette section que je connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler, qui a écouté très attentivement, qui est venu me voir après, et c'était déjà Benoît Hamon. Et on a, dès ce jour-là, lié des liens très particuliers, mais qui sont des liens à la fois d'amitié, mais politiques également. Et ce qui s'est passé par la suite, moi, m'a conforté dans mes choix. Je vais vous prendre un exemple qui a été, pour moi, extrêmement spectaculaire. Je travaillais, comme ça, comme d'autres, puisque c'est un vieux sujet, sur le revenu universel d'existence depuis quelques années, mais quand j'en parlais en disant, voilà, je ne le verrai pas, mes enfants ne le verront pas, peut-être mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, j'espère. Et puis, ça a resté un sujet, quand vous étiez invité sur le revenu universel d'existence, vous étiez un zozo, hein, enfin, les gens vous regardaient un peu en rigolant. Et un jour, dans un meeting pendant la campagne électorale, une association que j'avais reçue à l'Assemblée nationale pour parler de la pauvreté et de l'exclusion me dit, mais Michel, tu te rends pas compte de ce qu'on a fait en 7 ou 8 mois? On a fait passer ce sujet qui était un peu pour happy few dans les cercles de réflexion, un peu, voilà, à en plein jour, il a totalement irrigué la société française. C'est un sujet dont on va parler encore longtemps. On a fait un bond en avant de peut-être 20 ans sur ce truc-là. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, on n'a pas gagné, ça c'est sûr. On a même perdu. Mais finalement, les idées qu'on a portées, elles rencontrent un écho incroyable, parce que le revenu universel, il y a quand même 35%, je crois, de la population aujourd'hui qui est convaincue. Ça veut dire que la majorité ne l'est pas. Mais c'est déjà énorme pour un sujet aussi complexe.
Pour un sujet dont on parlait très discrètement depuis une trentaine d'années.
Donc je me suis dit, ben voilà, il faut continuer là-dessus. Et je vous avoue que reprendre la liberté par rapport aux anciens partis qui sont quand même très structurés autour de rendez-vous électoraux, et pas forcément toujours autour des idées, eh bien, ça fait un bien fou. Et moi, je me sens en partie revivre.
Alors, Michel Pouzol, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que durant la présidentielle, il y a eu un scepticisme devant cette mesure du revenu universel, y compris à gauche. On s'est parfois
bloqué. Y compris parfois dans la campagne, dans le groupe de campagne de Benoît Hamon. Hein,
certains se sont moqués de vous avec un projet utopique, irréaliste. Mais là, vous êtes en train de nous dire que les esprits ont été préparés à cette mesure qui verra peut-être un jour une concrétisation.
Vous voyez bien aujourd'hui que sur ce projet-là, on en est à des expérimentations très différentes selon les pays, mais partout. En Inde, au Pakistan, en Italie, en France, dans plusieurs départements, en Finlande, je crois. Voilà, c'est en Alaska. Il y a eu, voilà, il y a eu tout un mouvement autour de ça qui est en train de d'émerger d'un peu partout. Donc, on voit bien que c'est en tout cas quelque chose qui correspond aussi à des réalités. C'est-à-dire, on voit bien que le monde du travail va être de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, de plus en plus fractionné. On voit bien que si on ne réagit pas à ces utopies, il va falloir être utopiste. Parce que si on n'est pas utopiste, on va être fataliste. Et si on est fataliste, eh bien la réduction du temps de travail, on ne la fera pas. Le partage du travail, on ne la fera pas. Le partage de la richesse, on ne la fera pas. Et on va laisser de plus en plus de gens en dehors de la route.
Il faut lutter contre la résignation ou encore contre la fameuse phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative.
Exactement. Il faut toujours pouvoir dire qu'il y a toujours une alternative. Il y a toujours un chemin différent. Et la preuve, c'est que les chemins qui ont été pris jusqu'à présent n'ont pas provoqué les effets escomptés. Enfin, depuis que je suis gosse, j'entends parler de la baisse du chômage. J'ai jamais vu, dans les mesures ultralibérales qui ont été prises, un seul impact sur la courbe du chômage. On en voit bien, ça fait des années qu'on nous parle du retour de la croissance. Et la croissance est devenue une espèce de mythe, d'une espèce de veau d'or, mais qui ne revient pas. Donc,
il y a un frémissement de la croissance.
On en est à un frémissement.
Une légère baisse du chômage.
Voilà, vous l'avez dit. On en est à des frémissements, à des légères baisses. Et on va rester, je pense, tant qu'on mettra en place ces politiques-là, dans des frémissements, des légères baisses, des légères hausses. Et donc, finalement, on ne change pas les choses. Or, aujourd'hui, moi, je vous conseille de lire un bouquin qui s'appelle « Les utopies réalistes » de Rutger Bregman, je crois, voilà, qui est publié au Seuil, j'en fais de la pub, qui est un Hollandais qui décrit justement le partage du travail, le revenu universel, l'argent gratuit, le monde sans frontières, toutes les utopies comme ça. Et en fait, il pose des idées pour re-réfléchir notre rapport à la fois au monde, à la société. Et moi, je pense que c'est un vrai bon projet politique.
Quand Anne Hidalgo suggère des transports en commun gratuits, on va dans la bonne direction, on est vers une utopie réaliste.
Mais
certains réclament aussi, par exemple, la cantine gratuite, comme Alexis Corbière.
Il y a des endroits où les transports en public sont gratuits. Oui, ça me semble même une idée sur laquelle on devrait se pencher dès maintenant, bien entendu. Les cantines gratuites, bien sûr. Mais ça, c'est des petits morceaux. L'intérêt de ce qu'on est en train de faire dans Génération, c'est d'avoir cette vision, mais de manière globale, sur l'écologie, sur le monde du travail, sur la société, sur l'entreprise, sur comment consommer mieux et différemment, comment partager le temps de la vie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi productif si vous occupez demain de votre papa ou de votre maman qui a Alzheimer, pour la société, que si vous travaillez un boulot qui vous rend idiot et où vous êtes obligé de placer. Voilà. Il y a toujours ces choses-là sur lesquelles on peut travailler.
Michel Pouzol, sur l'écologie, est-ce qu'il faut aussi que on passe à autre chose que l'écologie punitive?
Mais bien sûr.
Pour l'instant, on a l'impression tout de même que on demande des efforts aux citoyens, on demande moins d'efforts à l'industrie et on ne voit pas véritablement les effets de ce que font les citoyens, le recyclage, faire attention à l'eau, à l'électricité.
On voit pas les effets forcément aujourd'hui. Par contre, c'est un mouvement de fond qui s'opère dans la société. Et contrairement à la caricature qu'on veut faire passer un petit peu facilement dans certains médias, c'est pas une préoccupation de bobo, quoi. Voilà, c'est une préoccupation de tous ceux qui commencent à avoir des enfants, qui se demandent dans quel monde ils vont vivre. On le voit, les dérèglements climatiques sont de plus en plus importants. On sait que le réchauffement de la planète va faire monter les eaux. Donc, il faut que ces mouvements-là, qui expérimentent chacun dans leur coin, méritent qu'on y prête attention. La création de circuits courts de consommation, les gens veulent manger mieux. Mais pour le faire, encore faut-il qu'on se batte et qu'on se batte sur un autre chemin, parce qu'aujourd'hui les grands laboratoires pharmaceutiques ou ceux qui nous produisent des produits qui nous empoisonnent à longueur de temps sont aux manettes.
Benoît Hamon voulait lutter contre les perturbateurs endocriniens. C'est vrai que le sujet a été mis sur la table à ce moment-là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, vous qui avez été député, qu'est-ce qui empêche un gouvernement d'interdire tous les produits nocifs pour notre santé, la santé des enfants?
Alors,
véritablement quelque chose, je n'arrive pas à comprendre.
C'est simple, hein, je vais vous l'expliquer très clairement. Vous avez en face de vous des industries qui sont extrêmement fortes, qui pèsent très lourdes, qui exercent un chantage.
Plus fort que le gouvernement.
Bien entendu. Mais bien entendu, c'est bien ça la problématique. C'est que ces groupes-là sont devenus extrêmement puissants. Qui d'ailleurs, ils ont eu un message très clair. Si on supprime ces produits-là, on va peut-être vous en mettre des pires. Vous voyez, déjà le mode de fonctionnement qu'on a dans le discours. Et quand Je vais prendre cet exemple-là. Quand nous, nous battions pour la transparence pendant la campagne électorale, Benoît Hamon, on disait, il faut qu'on sache d'où viennent les dons des uns et des autres. Les gens ont cru que c'était une attaque politicienne, notamment contre Emmanuel Macron. C'était pas ça la question. Tant qu'on ne sait pas qui paye quoi, on ne sait pas pourquoi ce genre de décisions sont prises et ne sont pas prises. Et si vous avez des grands groupes qui vous aident de par, eh ben quand arrive le moment de la récolte, c'est eux qui viennent faire la moisson.
Quand vous étiez donc, à l'Assemblée,
on a vraiment des lobbies très forts là-dessus.
Quand vous étiez à l'Assemblée, les lobbies vous ont approché?
Je dis moi pas vraiment parce que j'étais alors.
Vous étiez identifié comme plutôt rétif au lobby.
Rétif, et puis j'étais sur les secteurs, quand même, moi, mes principales préoccupations restaient quand même le domaine de la culture, des médias, etc. Donc bon, on est moins nocifs. Enfin, encore que les médias peuvent être nocifs de temps à autre, mais.
Avec les fake news.
Voilà, avec les fake news, mais c'était pas mon champ d'action. Mais, et c'est pas forcément d'ailleurs qu'à l'Assemblée. On a vu passer à l'Assemblée des amendements qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau, enfin, qui étaient mot à mot. Écrits par des syndicats de producteurs, d'industrie, etc.
Et qui sont repris parfois par les députés.
On l'a vu à plusieurs reprises. Je crois qu'ils ont un travail qui est très fort aussi dans les cabinets ministériels. C'est un peu une légende urbaine, mais ça existe. Je me souviens d'un ministre que je ne citerai pas qui disait, il y a des moments quand je fais une réunion, j'ai l'impression qu'en face de moi, c'est pas des costumes cravates qu'ils ont, c'est des costumes de pilotes de Formule 1 avec les sponsors qui sont marqués sur les épaules et sur les manches. Donc on a ce rapport de force, et il faut pas être naïf, on a ce rapport de force-là, il faut l'inverser. Mais tant qu'on reste à dire, il y a qu'un seul chemin possible, c'est ce libéralisme ultralibéral, donc il fait ce qu'il veut, et puis le marché se régulera, eh bien on n'avancera pas, y compris sur des trucs de santé, comme les perturbateurs endocriniens.
Michel Pouzol, pendant la campagne présidentielle, on a reproché à la fois à Benoît Hamon et à Jean-Luc Mélenchon de ne pas s'être entendus, c'est peut-être ce qui a provoqué... leur échec à tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tiré tous les deux, je dirais, Génération et La France Insoumise, les leçons de cette absence d'entente? Car on imagine bien que Benoît Hamon ne pourra pas gagner tout seul et Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas gagner tout seul.
Alors, pour Jean-Luc Mélenchon, il faudrait lui poser la question à lui. Moi, je répondrai.
C'est toujours la faute de l'autre.
Non, je vais lui poser la question à lui. Je ne me permettrai pas de répondre à la place des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon, qui ont fait un score important et qui ont une activité d'opposition très forte à l'Assemblée nationale, notamment. Pour nous, en tout cas, dans l'esprit de la création de génération, ce qui est une certitude, c'est que nous ne voulons plus être simplement le point central d'une gauche qui nous suivrait, comme c'est le cas du Parti Socialiste. En gros, jusqu'à présent, l'Union, elle se faisait autour et derrière le Parti Socialiste. Nous sommes plus pragmatiques pour nous dire que, suivant les circonstances, suivant les endroits, eh bien, les unions peuvent avoir plusieurs visages et plusieurs natures. Là, on travaille en ce moment, au-delà des discussions qu'on a avec nos partenaires français, puisqu'on est toujours en discussion, hein, on n'a pas d'opposition farouche, on le fait aussi au niveau européen.
En prévision des européennes.
En prévision des européennes, on travaille avec Tsipras, avec Monsieur Varoufakis, avec des Italiens, l'Espagne, enfin, etc. Pour essayer aussi de voir comment, au niveau européen, ces gauches qui sont finalement disséminées, mais qui existent un peu partout, peuvent s'unir pour aussi dire qu'au niveau européen, il n'y a pas qu'un seul chemin. Et si on arrive à faire cette démonstration, puisque c'est la prochaine échéance, je pense qu'on aura d'autant moins de mal à le refaire au niveau national.
Donc ça commence par l'Europe. Benoît Hamon a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon sur les européennes, mais ça va pas aller plus loin qu'une main tendue.
Je peux pas vous dire. Pour l'instant, ça c'est vraiment les trucs de la vieille politique, malheureusement. Donc c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet, d'accord. Alors avec Jean-Luc Mélenchon, on a quelques grandes différences sur l'Europe, c'est clair. Nous sommes totalement, foncièrement, indubitablement et sans aucune hésitation européen. Et nous ne pensons pas qu'il y ait d'autres issues que via une modification de l'Europe. Mais par contre, hors de l'Europe, nous n'y croyons absolument pas. Donc là, nous sommes fermés. Il n'y a pas de plan B. C'est clairement ça. Donc bien sûr, ça fait des différences et des débats. Mais on a toujours réussi à discuter. Je reviens juste sur les présidentielles parce que c'est un peu, à mon sens, quelque chose de partiellement faux. Il faut pas croire qu'il suffisait d'additionner 1+1 pour faire 2. En politique, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas certain que les 6% et demi qui ont voté pour Benoît Hamon ou les 12% qui ont voté pour moi dans ma circonscription se seraient automatiquement reportés sur la France insoumise. D'ailleurs, ils l'ont pas fait aux législatives. Et vice-versa. Je veux dire, je ne suis pas certain que dans le sens inverse, je suis même sûr qu'une partie des insoumis n'aurait jamais voté pour un candidat socialiste, par exemple. Donc, le 1+1 égale 2 en politique, c'est quand même une vue de l'esprit, mais ça marche rarement comme ça.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Michel Pouzol, ancien député de l'Essonne, membre du mouvement Génération.S, mouvement cofondé le 1er juillet par Benoît Hamon. Alors, comment est structuré ce mouvement? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que c'est un parti politique, c'est un mouvement? Comment ça marche?
Alors, c'est là où on rentre dans l'expérimental et l'expérimentation, ce qui prouve d'ailleurs, nous sommes en train de prouver par l'exemple qu'il n'y a pas qu'un seul chemin et qu'une seule voie, parce qu'on expérimente d'autres voies. Benoît a commencé par dire qu'il quittait le parti, qu'il créait le mouvement qui s'appelait M17-17 à l'époque, et puis, so what, après, on s'est regardé un peu en disant, maintenant, comment on fait? Donc, on a essayé de voir comment on pouvait structurer les choses. Très rapidement, ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'on a eu beaucoup d'adhésions, très rapidement, de gens qui se sont reconnus dans ce que l'on avait porté pendant la campagne présidentielle.
Combien d'adhérents?
Aujourd'hui, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on a passé le cap des 45 000 et on doit avoir 600 à peu près comités en France. Alors, tous ne vivent pas de la même façon. Mais voilà. Donc chacun pouvait créer son propre comité, etc. Donc on a tenté de structurer ça. Alors, en tenant compte de ce que doit être une nouvelle forme de démocratie interne, on a commencé par envoyer à tous ses adhérents un immense questionnaire qui prenait 30 minutes à remplir pour savoir ce qu'ils voulaient faire de ce mouvement, si on voulait qu'on se passe des élections, quelles étaient les thématiques particulières, etc. On a eu un flot de réponses. Je sais plus, c'était 25 ou 30 000 réponses, donc c'était très lourd. De ces réponses-là, nous allons tirer une charte qui a été discutée dans les comités, qui a été votée au Mans le 1er décembre. Donc 6 mois après, on avait une charte qui était, l'acte de naissance et d'adhésion. Alors une charte, où on explique nos valeurs. On est écologiste, on est féministe, elle est assez complète, elle est assez riche. On développe pas mal d'idées là-dessus. Et on a décidé donc de créer un comité politique temporaire, qui donc en est une trentaine, et on essaie de réfléchir effectivement semaine après semaine à comment structurer ce mouvement. Et dans la structuration du mouvement, on a repris une idée qu'on avait utilisée dans la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'on a créé un comité des membres. Et 30 personnes ont été tirées au sort parmi ceux qui étaient volontaires pour le faire, et ces 30 personnes qui se sont déjà réunies une fois, qui représentent donc eux-mêmes au départ, travaillent jusqu'au mois de juin, fin juin, à la création de ce que vont être nos statuts. Et donc, on va trancher petit à petit toutes ces questions. Est-ce qu'on est un parti? Est-ce qu'on n'est pas? Honnêtement, vu les premiers résultats qu'on a eus, je pense qu'on arrivera à être un parti à un moment donné. On a des taux de réponse très forts dans les questionnaires. Donc, c'est ce qui nous guide. Et donc, on essaie de faire vivre cette démocratie directe. Et puis, en juillet, on aura toute l'organisation pour élire un vrai comité politique ou pas. Enfin, on va décider à ce moment-là quelle sera la prochaine étape pour le mouvement.
Michel Pouzol, est-ce que La République En Marche peut être un modèle pour vous, puisque c'est un parti politique créé de toutes pièces et qui a réussi à gagner la présidentielle et les législatives dans la foulée?
Alors, je vais vous dire, sur le problème de La République En Marche, c'est l'écart phénoménal entre la parole et l'action. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que c'est sans doute le parti le plus centralisé qu'on ait sur l'échiquier. Puisque même pour les nominations législatives, on a vu que c'était fait comme des candidatures à une entreprise avec un type qui décidait et qui, voilà. Donc nous, c'est absolument l'inverse qu'on essaie de faire. On essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire vivre la démocratie locale. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Il faut savoir que dans le mouvement Génération aujourd'hui, 70% des gens qui ont adhéré ne venaient pas d'un parti. 70% de gens viennent de la société civile.
Donc ce ne sont pas des déçus du Parti Socialiste.
Et il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. On a beaucoup de gens qui étaient dans l'associatif, qui étaient un peu en marge et qui ont dit, voilà, vos idéaux nous ont percutés, et qui nous ont rejoints. Donc faire vivre ça avec des gens qui rentrent dans l'engagement et qui veulent le faire différemment, qui sont très très exigeants avec nous. Et d'ailleurs, on n'est pas toujours à la hauteur. Des fois, il faut qu'on se réajuste nous-mêmes parce que la démocratie directe, c'est pas toujours simple. Mais c'est ça notre ambition. Notre ambition, c'est aussi là de dire jusqu'au bout, on va créer un autre chemin, on va créer une autre manière de faire. Et le but, c'est pas l'arrivée qui est un homme totémique, même si aujourd'hui Benoît incarne beaucoup de choses. Mais c'est pas lui d'ailleurs. C'est pas lui le délégué général de notre mouvement. C'est Guillaume Balas. Voilà, c'est aussi symbolique.
Alors, le nom M1717, qui était très mystérieux, maintenant Génération.
M1717, vous savez, c'était le 1er juillet, mouvement du 1er juillet 2017.
Ça ressemblait un peu à un mot de passe.
Ça faisait un mot de passe, c'était assez amusant. Mais bon, alors, Génération, Génération.S.
Point S, alors pourquoi alors, point S?
Pourquoi point S? Parce que
ça,
nous,
ça me
nous
fait
avons...
penser à l'écriture inclusive.
C'est un peu l'écriture inclusive, mais c'est très important pour nous. Les rapports et l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet fondamental. C'est aussi
mais,
une des
mais qui maltraite un peu la langue française, l'écriture
inclusive. Qui maltraite
inclusive.
Un peu la langue française. Mais vous savez, si pour avancer vers l'égalité réelle, si pour avancer vers des choses qui soient un peu plus acceptables, il faut maltraiter de temps en temps, je ne dis pas tout le, du matin au soir, la langue française. Elle s'en remettra, c'est une vieille dame très digne et très forte qui, je pense, peut survivre à ça. Mais l'idée de Génération.S, c'est surtout de dire que nous sommes des générations. Nous sommes des générations écologistes, nous sommes une génération qui avance, nous sommes une génération qui réfléchit, nous sommes une génération féministe, nous sommes une génération pacifiste, nous sommes une génération européenne, nous sommes, voilà, c'est ça qu'on veut signaler, on veut signifier, c'est que nous sommes multiples, pluriels, et surtout que chacune de ces valeurs a la même importance pour nous.
Michel Pouzol, comment la gauche peut-elle espérer revenir un jour au pouvoir? Est-ce que c'est un jeu d'alliance ou bien c'est d'abord une conquête par les idées?
Si la gauche ne se réinvente pas, si elle ne réinvente pas sa manière de voir la société et le monde, si elle ne se confronte pas au réel, elle n'y arrivera pas. Voilà. Claire, net et précis, et elle n'aura aucune légitimité à le faire. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on rouvre le dialogue avec notre pays, avec les quartiers dans lesquels les gens vivent, avec les territoires, avec les campagnes. Enfin, on voit bien qu'il y a un décrochage qui s'est fait totalement, qu'on a des Français, parce que ce sont les Français les plus en difficulté. Ce sont les Français qui sont le plus qui subissent la crise et les politiques libérales qu'on met en place en Europe et en France. Qui les prennent le plus dans les dents, excusez-moi, j'ai pas d'autre expression, qui ne votent plus pour nous. Donc c'est bien qu'on a perdu le fil de notre raison d'être, de notre propre raison d'être. Donc il faut qu'on relie ce fil et il faut qu'on regagne la bataille des idées, c'est sûr, c'est sûr.
La France Insoumise travaille beaucoup. Vous avez parlé, vous avez 600 comités locaux, mais la France Insoumise a créé sa propre université. Il y a une chaîne YouTube. Visiblement, il y a une sorte de dynamique depuis l'élection présidentielle. C'est important aussi d'être sur le terrain et pas seulement sur les réseaux sociaux.
Les deux sont importants. Les deux sont importants. Après, la France Insoumise, c'est un travail de longue haleine. Il faut jamais oublier que ce travail-là, Jean-Luc Mélenchon, il l'a engagé plus d'un an avant la présidentielle. Donc déjà, il a un calendrier, c'était une structuration.
C'est vrai que Benoît Hamon a été un petit peu le candidat surprise.
Nous, on a été un peu plus, projeté sur l'avant de la scène de manière un peu plus brutale. Donc nous sommes aussi en train de structurer tout ça. Mais quand on a un jeune mouvement comme le nôtre, bien d'abord, on n'a aucun moyen. Ça paraît bête.
C'est important de le dire.
Mais on n'a aucun moyen financier, c'est très difficile. Donc on a, je crois, une permanente qui travaille, la pauvre, beaucoup plus que 35 heures, beaucoup trop. Et donc, tout ce qu'on fait, on le fait, je dirais, un peu avec du bric et du broc, parce que... Mais c'est un choix, c'est un pari. C'est à la fois passionnant, mais ça crée des difficultés. Donc l'idée, c'est de, cette année-là, cette première année d'existence, on la structure, on a fait un événement avec 2000 personnes au Mans, qui a été un mouvement extraordinaire. Alors, vraiment, c'était un bonheur d'être là. De discuter, de remettre les idées sur la place, de s'engueuler, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de vitalité dans ce mouvement, et puis ceux qui viennent nous rejoindre, qui n'est pas de la politique, sont très, très demandeurs.
Vous avez le sentiment qu'on a manqué de débat ces dernières années, qu'on était, que les décisions arrivaient sans véritable consultation?
Mais, bien entendu, quand on voit, d'abord, ce qui était très compliqué, et Macron a réussi à un bon coup là-dessus, c'est quand même, il y a eu un moment donné où il était très compliqué de savoir ce qu'était une position de gauche ou de droite pendant ce quinquennat. Il y a eu des moments où c'était très compliqué. Bon, je pense que les Français s'y sont perdus. Enfin, ils ne se sont pas perdus d'ailleurs, ils ne se sont pas trompés. Ils n'ont pas revoté pour les socialistes où l'ambiguïté était trop flagrante entre ce qu'on disait, entre mon ennemi c'est la finance et la déchéance de nationalité. Enfin, on faisait un grand écart qu'on n'a jamais fait, nous à gauche en tout cas, de cette manière-là aussi fortement. Donc, bien sûr que cette chose-là était extrêmement difficile à mener. Mais aujourd'hui, il faut, je pense, revenir à certains fondamentaux. Puis il faut répondre aux Français qui souffrent le plus et aux angoisses qui sont les leurs au quotidien. Donc je pense que c'est l'enjeu. Alors, on a peut-être une chance aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est que Macron, qui a synthétisé les deux, aujourd'hui mène une réelle politique de droite.
Oui, alors, justement, Michel Pouzol, comment pourriez-vous définir le macronisme ?
Ah ben, le macronisme, le macronisme, c'est juste une politique de droite classique.
Mais la droite s'oppose à Emmanuel Macron ?
Oui, une partie, mais enfin, il y a quand même des lois qu'a posé Macron. La droite ne peut que revendiquer, parce que c'était les leurs. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans la République en Marche. C'est que moi, j'ai découvert une chose à l'Assemblée. Je vais vous parler de ça. J'ai découvert que la représentation démocratique finalement avait un poids plus limité que ce que je pensais, mais que la technostructure, que les élites avaient un poids bien supérieur à ce que je pensais. Et Macron, c'est le produit pur et simple de ces élites qui s'auto-reproduisent depuis des années. Et on voit bien que dans son staff de campagne, la garde rapprochée, tous ces jeunes mecs ultra-diplômés, etc., qui venaient d'abord de ministères, de grandes administrations, etc., représentent cette image-là. Et ces types-là font la politique pour laquelle ils ont été programmés, qui est une politique ultra-libérale, de droite, et on fera quelques cadeaux après, de manière anecdotique, pour calmer un peu la population. Mais il n'y a pas la volonté de renverser la table, il n'y a pas la volonté de vaincre la grande pauvreté, il n'y a pas cette volonté-là. C'est pas la question. La question, c'est les 3% de déficit, c'est de supprimer la fonction publique, c'est de remettre en cause le rôle de l'État. Parce que quand on supprime de plus en plus de fonctionnaires, les services publics fonctionnent mal, donc on les donne aux privés, et on affaiblit l'État. C'est une doctrine qui est enseignée dans ces grandes écoles, l'ENA, Sciences Po, et elle est juste appliquée de manière systématique.
Vous êtes en train de nous dire, Michel Pouzol, qu'une majorité de Français sera victime de la politique menée actuellement par Emmanuel Macron, et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas d'opposition véritable au président de la République, très peu de manifestations contre les ordonnances travail, la réforme de l'université est passée comme une lettre à la poste, là on nous annonce une réforme du bac, il n'y a pas d'opposition. Il a un boulevard devant lui, Emmanuel Macron.
Alors, vous avez raison là-dessus. En même temps, on voit bien que de plus en plus, la colère, elle est sourde. Elle n'est plus désespérée. Elle est sourde. Et on voit bien, il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps qui expliquait que 75% ou 70% des Français s'attendaient à un mouvement de grande ampleur nationale de résistance ou de révolte. Je crois que les gens sont laminés en ce moment. La crise qui traverse et qui dure, a laminé beaucoup de gens. Ils sont en grande partie désespérés, et effectivement, on voit ce qui se passe. Et puis, on vient de passer des années à opposer les uns aux autres. Les SDF aux RMistes, les RMistes aux SMICards, les SMICards au travers du privé, ceux du privé avec les fonctionnaires, les professions libérales, bref. Les Noirs contre les Blancs, les Arabes contre les Juifs, c'est un truc de dingue. On est dans ce pays-là qui a subi ce rouleau compresseur et qui le subit encore. Donc c'est pour ça que la bataille des idées va être extrêmement importante. Mais je pense que quand on tire trop la corde, elle finit par casser. Et je crois que la société française est quand même à la limite de la rupture. Sauf que la peur est tellement grande de demain que si on n'arrive pas à redéfinir des axes politiques qui soient, je disais, un peu idiot, mais bienveillant, avec un projet positif, en leur disant, on peut, en changeant les choses, améliorer la santé de vos enfants, la manière dont ils se nourrissent, votre revenu, la manière dont on partage le travail, votre quotidien. Si on n'arrive pas à faire cette bataille des idées, alors on aura beaucoup de difficultés. Et nous, c'est le pari qu'on va tenter.
Emmanuel Macron se présente comme un président bienveillant.
Oui, mais il est bienveillant pour les plus riches, ça c'est clair. Les choses sont claires. Au moins, là-dessus, la clarté est absolue. Il est quand même aujourd'hui à un niveau de popularité qui est le plus bas des présidents de la 5e à ce tempo-là. On verra pour la suite. Mais on voit bien que la machine commence à se gripper. Ça se passe pas si bien que ça.
Michel Pouzol, vous dites qu'on est au bord de la rupture. Au mois de mai, ça fera 50 ans, mai 68. Est-ce que il faut avoir ça à l'esprit?
Je suis pas, alors, je suis pas...
On n'est pas Madame Soleil,
ouais,
évidemment.
Je suis pas Madame Soleil. Moi, j'avais 6 ans en 68. Je me rappelle très, très bien de la grève dans l'usine où mon père travaillait et où tous les soirs, les voisins se mettaient chez nous pour écouter la radio.
Vous étiez à Clermont-Ferrand?
On était dans la région de Clermont-Ferrand, voilà. Et je me rappelle très, très bien de 68 là-dessus. Mais je ne sais pas si ça arrivera comme ça. Il faut se rappeler que 68 est arrivé à un moment donné où la crise n'était pas là. C'est pas la crise qui a fait naître 68. C'est au contraire le manque de... Les premiers besoins étant satisfaits, on a été voir ce qu'il n'était pas. C'est ça qui a déclenché 68. C'est plutôt une révolution mondiale, qui plus est. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, de grands mouvements de protestation forts. Ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est que ça s'exprime par d'autres moyens que les moyens politiques classiques. C'est-à-dire que si la politique ne donne pas des débouchés à cela, si les syndicats ne donnent pas de débouchés à ces combats-là, alors on sait ce qui reste, et le reste, c'est la violence.
Ça, c'est un risque
que vous prenez
très au sérieux.
Je prends ça très au sérieux, et je pense que la Macronie, dans sa suffisance parfois importante, pas tous, hein, mais bon, je vais pas faire une globalité, elle ferait bien de faire très attention à ça.
Comment vous...
Un peuple reste toujours un peuple souverain, et le... très peu de taux de participation aux élections aujourd'hui fait qu'à un moment donné, il faudra qu'ils s'expriment d'une manière ou d'une autre.
Comment vivez-vous le fait que certains de vos anciens collègues socialistes ou écologistes à l'Assemblée nationale soient aujourd'hui des personnalités importantes de la République en marche?
Pour certains, je suis pas étonné. Enfin,
François de Rugy, par exemple, vous y attendiez?
François de Rugy,
qui n'a pas soutenu Benoît Hamon à l'élection présidentielle.
Benoît Hamon, c'est-à-dire moi, vous savez, entre François de Rugy, Manuel Valls, enfin, des gens dont la parole ne vaut que le temps de salive qu'ils utilisent pour la livrer et dont la signature ne coûte pas plus cher que l'encre qu'ils ont mis au bas de la page, ça m'intéresse assez peu, finalement. Il y a des gens pour qui je suis extrêmement déçu. Parce que c'est des gens que j'estimais beaucoup et que je pensais qu'il y avait des fortes convictions et qui se battaient par conviction. Et puis il y a des gens, c'était normal. Voilà, ils ont suivi la pente. Enfin, Manuel Valls, il est dans sa logique. J'ai rien à dire là-dessus. Je suis plus choqué par des comportements comme celui de, enfin, je trouve le plus caricatural et le plus triste humainement, c'est celui d'Olivier Dussopt qui s'est fait élire en tant que député socialiste. Qui a fait pire que ça, qui se fait élire en tant que député socialiste. Vote contre le budget et 3 jours après va défendre le même budget devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat. J'avoue que c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Je pense que c'est politiquement destructeur. Je pense que c'est destructeur que les Français là pour le coup voient des gens qui s'accrochent d'abord à leur place avant d'avoir des convictions. Et moi je le dis toujours, hein, je préfère mourir debout avec mes idées que dormir tranquille avec les idées d'un autre.
Vous avez regardé la série Baron Noir?
Bien sûr.
Qui parle du Parti Socialiste?
Bien entendu.
Elle est crédible, cette série?
Je vais vous raconter une anecdote. C'est quand je suis arrivé au Parti Socialiste dans l'Essonne, j'ai rencontré Monsieur Benzekri, qui était dans l'Essonne aussi.
Et qui est le concepteur, le
scénariste, et qui m'avait dit, Michel, toi, t'as fait du cinéma, etc. J'ai écrit une série sur la politique, là, sur les histoires avec Julien, tout ça, si tu veux, ça t'intéresse, voilà. Et on en avait parlé une fois ou deux, puis on s'est perdu de vue et c'est tombé dans les oubliettes. Et quand j'ai vu qu'il avait fini cette série-là, j'étais assez mort de rire parce qu'il y a des choses qui sont, tout à fait surprenantes. Même d'ailleurs presque, enfin il a quasiment vu arriver l'histoire Macron, c'est marrant. C'est vachement bien joué, c'est très intéressant. La politique, c'est quand même pas que ça. Heureusement, là on a focalisé sur ce qui est sans doute le pire. C'est pas que ça, mais ça peut être aussi pire, je pense.
Michel Pouzol, dernière question. Vous étiez RMiste avant d'être député. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, je cherche du travail. Voilà. Je suis très engagé donc en politique toujours. Je me bats toujours. J'ai le plaisir de venir sur des médias comme vous pour toujours porter ma bonne parole. Mais je suis à la recherche d'un emploi. Et voilà, comme beaucoup de Français. Alors on a des aides un peu supérieures aux députés. Donc je vais pas plainte, j'ai connu des situations plus difficiles. Mais voilà, j'essaie de penser à ma reconversion professionnelle, ce qui n'est pas toujours simple quand on a 55 ans. Moi, j'ai une épouse qui est aussi au chômage. C'est pas si simple que ça, le retour à la vraie vie, mais ça fait partie. Enfin, moi, j'ai jamais considéré que la politique était était un dû ou quoi que ce soit. Je suis arrivé sur une mini vague avec François Hollande, je suis reparti sur une grosse vague avec Emmanuel Macron, ça fait partie du jeu. Si vous voulez pas jouer, vous savez, c'est, je prends toujours une image de rugby, hein. Si vous voulez jouer avec un ballon rond et faire des passes en avant, ben, faut pas aller jouer au rugby, parce que au rugby, c'est un ballon ovale et des passes en arrière. Voilà.
Merci Michel Pouzol. Je rappelle que vous êtes ancien député de l'Essonne et membre du mouvement Génération.S. Bonsoir.
Bonsoir. Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.